Chapitre 66. Quand elle eut quitté les ruines d'Ephren, Nietzsche ordonna au bâtiment militaire de faire escale à Sérimundi. Une petite inspection des défenses s'imposait. Lorsqu'elle capta la tension dans l'atmosphère, elle comprit que les habitants prenaient la menace au sérieux. Le maître du port Otto faisait patrouiller des bateaux au large et des sentinelles se tenaient sur la falaise au-dessus de la statue de Merlamer. Ces hommes avaient imaginé une manière simple mais efficace de communiquer de loin. Si un des patrouilleurs repérait des galères, il larguait des balises flottantes enflammées composées de planches enduites de poids et de branches encore vertes. La fumée étant visible de loin, les sentinelles n'avaient plus qu'à avertir la ville. Les Norokai ne prendraient jamais plus Sérimundi par surprise. À Ephren, Nietzsche avait encore recueilli des réfugiés. Les capacités d'accueil de Sérimundi étant dépassées, elle comptait gagner très vite à Nimura, mais pas sans s'être assurée que tout allait bien ici. Le port grouillait toujours d'activité. Depuis l'attaque, beaucoup d'épaves avaient été démontées pour ménager un passage aux grands navires commerciaux. Partout, cependant, les canots et les bateaux de pêche slalomaient pour éviter les mâts qui jaillissaient encore de l'eau. Des équipes continuaient à réparer les quais tout en renforçant les défenses. La précédente ayant fini par tomber en lambeaux, la magicienne arpenta le front de mer dans une robe noire flambant neuve. La coupe impeccable du vêtement attirait d'autant plus les regards que ses cheveux blonds avaient repoussé. Sur les nouveaux quais, elle trouva Otto en compagnie de Ganli, le capitaine de la Vierge des Brumes, un bateau qui s'était révélé trop gros pour se faufiler parmi les épaves. 5 grands navires restaient arrimés au quai, attendant une occasion de lever l'ancre. Profitant de ce répit, des équipes fixaient à la coque des plaques de métal. Otto et son gendre se tenaient à côté d'une pile de caisses bien plus haute qu'eux. Tous deux se tournèrent dès qu'ils aperçurent Nietzsche.
« Grâce à vous, magicienne, ma Vierge des Brumes a tout d'un bâtiment de guerre à présent. Cela dit, je préfère quand même commercer paisiblement de port en port. »«
Jusqu'à la fin du conflit, tous les navires seront dédiés à la guerre. »
Pour s'abriter les yeux du soleil, Otto tira sur son chapeau.
« Avant ce soir, dit-il, la voie sera libre pour les plus grands navires. J'aimerais que Ganli conduise ma fille et ses enfants en sécurité, ainsi je pourrais me consacrer à la défense de la ville. »
« Il serait hors de danger, » dit Ganli, « mais pas vous et les autres habitants. J'ai un rôle à jouer ici. »«
Oui, » approuva Nietzsche.
« La Vierge des Brumes est vitale pour la défense de l'entrée du port. Si les Norokai franchissent les récifs, ce sera la clé de tout. »
La magicienne se réjouit de voir des centaines de réfugiés d'Ephren à l'exercice sur l'emplacement de 2 entrepôts brûlés pendant le raid du capitaine Kor. Encore en haillons, ces hommes et ces femmes arboraient des équipements de fortune et ils se montraient plutôt maladroits, mais ils s'amélioreraient au fil des heures. Nietzsche les désigna du menton.
« Si les Norokai reviennent, ces renforts nous seront très précieux. »«
C'est vrai, » admit Otto. « Mais ma priorité, c'est d'empêcher ces chiens d'approcher. Avec nos nouveaux cuirassés, l'entrée du port sera bien défendue. L'ennemi n'accédera plus au quai. »
« Oui, » renchérit Ganli. 5 voiliers, ce sera suffisant pour barrer le chemin aux esclavagistes. »
Nietzsche n'en crut pas ses oreilles.
« Impressionnant. Où est passée l'insouciance dont vous faisiez montre, naguère ?»
Sur cette remarque, la magicienne abandonna les deux hommes. Un peu plus loin, elle avisa un vieux type chauve vêtu d'un pagne. La peau tannée, il semblait rongé par l'âge. Pourtant, avec une souplesse insoupçonnable, il s'assit en tailleur au bout du quai au-dessus de l'eau. Devant lui, 4 jeunes hommes s'apprêtaient à plonger. Prenant chacun une grosse pierre sur un tas, ils sautèrent, à croire qu'ils voulaient se suicider. Après de longues minutes, les 4 plongeurs refirent surface, toujours lestés d'une pierre. Leur professeur les regarda remonter sur le quai, mais il ne les félicita pas. Sur son torse nu, le vieil homme portait un nombre invraisemblable de cercles tatoués.
« Vous êtes des pêcheurs de perles souhait ?»
souffla Nietzsche. Le vieil homme releva la tête.
« Je suis même le meilleur de tous, Loren, pour vous servir. Mon fardeau, c'est d'entraîner ces jeunes idiots pour trouver celui qui me succédera. Pour ça, il faut avoir de sacrés poumons. Certains candidats ne remontent jamais à la surface. C'est casse-pied, parce que chaque fois, je dois plonger pour récupérer les pierres. Assommant, non ?
Les poumons près d'imploser, un cinquième jeune plongeur creva la surface puis jeta sa pierre sur le quai, à côté du vieux formateur.
« C'était trop facile, mon gars !»
lâcha Loren.
« La prochaine fois, prends une pierre plus lourde !»
Joignant le geste à la parole, il tendit au malheureux un lest qui le fit couler instantanément.
« J'ai déjà eu affaire à des plongeurs, » fit la magicienne. « Et ça ne s'est pas toujours bien passé. Mon nom est Nietzsche. »
Loren ricana.
« Ah, Sérimundi, tout le monde te connaît, magicienne. Pour moi aussi, ça ne se passe pas toujours très bien. Pourtant, vu leur nullité, mes élèves ne devraient pas se montrer arrogants.
Tu sembles avoir une haute opinion de toi.
Quand elle est justifiée, la fierté n'est pas un défaut. »
Les cinq plongeurs émergèrent en même temps et s'accrochèrent au quai, les yeux rivés sur leur maître.
« Nous avons exécuté tous tes ordres, Loren !»
dit un jeune type au visage plat et large. Sur Nietzsche, il posa des yeux de prédateur. « Un vrai requin !» pensa la magicienne avant de lui rendre l'appareil.
« Je vais trouver autre chose !» dit Loren. « Vous n'êtes pas assez fatigué !»
« Pourquoi ne travaille-t-il pas au démontage des épaves ?»
demanda Nietzsche.
« Qu'il se rende donc utile ?»
Les pêcheurs de perles souhaits ne s'abaissent pas à ce genre de choses,
lâcha un des plongeurs. Loren se rembrunit. À l'évidence, ce n'était pas la réponse qu'il attendait.
Tu feras ce que je te dirai. Tu as vu le nombre de tatouages que j'arbore? Pêcheur de perles souhaits, tu ne l'es pas encore, mon petit gars. Pour l'instant, tu as des poumons de nourrisson. Inspirer un peu d'humilité ne te ferait pas de mal.
Au moment de l'attaque des Norukai, Nietzsche avait tensé des pêcheurs, les convainquant de l'aider. Sous l'eau, ils avaient transporté des bouteilles remplies de feux de sorcier afin de couler plusieurs galères. Du coup, la magicienne en avait presque oublié ses mésaventures sur le randonneur des vagues, où plusieurs de ses types avaient tenté de l'empoisonner et de la violer. Loren se pencha et beugla.
« Obéissez à la magicienne. Allez aider les équipes dans le port. Sérimundi a besoin de vous. »
« Et pourquoi ferais-je ça ?»
demanda le jeune coq lubrique.
« Parce que ça te rapportera plus que de l'argent, »
dit Nietzsche.
« Pour une fois, tu te sentirais utile. Même chose pour tes amis. »
Les cinq jeunes gens regardèrent Nietzsche comme si elle avait perdu la raison.
« Une dernière chose. Si les Norukai prennent Sérimundi, ils ne seront pas du genre à acheter des perles souhaits, en supposant que vous soyez encore vivants pour les pêcher. »
« Direction le port !»
cria Loren.
« Quand vous aurez fini, je vous autoriserai peut-être à aller voir les filles. »«
Nous sommes des plongeurs !»
s'indigna un des types.
« Ce sont les filles qui viennent nous voir !»«
Sauf si je raconte partout que vous avez la lèpre !»
Dégoûtés, les cinq crétins nagèrent en direction de l'épave la plus proche. Mais le gong retentit, venant de la falaise, et tout le monde se pétrifia. Levant les yeux, Nietzsche vit qu'une sentinelle agitait frénétiquement les bras.
« Les Norukai, on va encore devoir se battre ?»«
Non, ce n'est pas une attaque !»
Loren tendit l'oreille.
« Trois coups de gong, un silence, trois autres, des navires de ligne. Trois !»«
Trois ?»
s'étonna Nietzsche.
« Les marchands sont concurrents et ils ne naviguent pas de conserve. »«
Exact !»
approuva Loren.
« C'est bien la première fois que je vois ça !»
Un peu plus tard, alors que les voiliers entraient dans le port, Nietzsche entendit dire qu'il venait de Renda-sur-Bay et qu'il y avait à bord Nathan, Bannon et d'autres vétérans d'Ile-Dakar. Mills, Stracker et Donnell jetèrent l'ancre près de la statue géante et envoyèrent à terre des émissaires. Même si elle le cachait très bien, Nietzsche frétilla comme une gamine lorsqu'elle vit Nathan, superbe dans sa classique tenue d'aventurier. Derrière lui, elle reconnut Bannon Farmer, l'escrimeur aux cheveux roux, et la maurassite Lila, très légèrement vêtue de cuir noir. Trois personnes que Nietzsche pensait ne jamais revoir. Venant de l'autre bout de l'ancien monde, comment se retrouvait-elle à Sérimundi? Dans le regard de Nathan, la magicienne vit qu'il ne s'attendait pas non plus à la revoir. Dès qu'il aperçut Nietzsche, Bannon se leva, manquant faire chavirer le canot.
« Nietzsche, je n'en reviens pas que tu sois là !»
Lila saisit son jeune compagnon par le poignet.
Si tu te noies après être tombé à l'eau, mon gars, je l'aurai mauvaise. Tu crois que j'ai fait tous ces efforts pour ça ?
Dès que le canot eut accosté, Bannon sauta sur le quai et courut serrer la magicienne dans ses bras.
« Tu m'as tellement manqué après tout ce qu'on a traversé ensemble, je suis sûr que tu t'es fait du souci pour moi. »«
Pas au point de m'empêcher de dormir. »
Malgré ses rodomontades, Nietzsche était heureuse de revoir ce sacré garçon. Très émue, selon ses critères, elle se laissa aller à lui rendre son étreinte.
« Je me réjouis de te savoir en vie, mais j'ai été très occupé à ériger des défenses, à tuer des Norukai et à ferrailler contre les hommes d'Outros. »
Nietzsche s'écarta de Bannon. Un court instant de répit, car Nathan aussi jugea bon de l'enlacer.
« Nous aussi, on a eu du pain sur la planche »
s'exclama-t-il.
« Il s'est passé beaucoup de choses, et la guerre avance dans notre sillage. Par bonheur, nous voilà réunis. C'est plutôt bien quand on a un monde à sauver. »«
Ensemble, ce sera bien plus facile !»
s'enthousiasma Bannon. Nietzsche cessa de feindre l'indifférence.
« Je me suis inquiété pour vous deux, c'est vrai. » Notre séparation, je l'ai pensée définitive. Je vous croyais mort ou piégé par le linceul de l'éternité. On t'a cru morte aussi,
avoua Bannon.
Je suis si heureux que ce soit faux.
Alors qu'il souriait à la magicienne, Lila coula un regard noir à son compagnon.
On a beaucoup de choses à se raconter, dit Nathan. Renda Surben n'existe plus. Même chose pour Surplomb du Monde. L'armée d'Outros est partie d'Ildakar et nous n'avons pas pu l'arrêter.
L'armada des Norukai a attaqué en même temps que les Soudars,
précisa Bannon.
À présent, les esclavagistes cabotent et les soldats traversent les terres, avec Tanimura comme objectif, j'en suis sûr.
Cette nouvelle sema le désarroi parmi les gens venus accueillir les visiteurs.
Que faire contre cette menace ?
Demanda Otto. Avec son érudition et sa connaissance pointue du langage de la création, Nathan, s'avisa Nietzsche, l'aiderait peut-être à percer le secret du cube de Richard. Le cœur plus glacé que jamais, elle lâcha.
Voilà ce que j'attendais depuis le début.